Laudetur Jesus Christus.
Le Ghana, premier pays au monde à bénéficier gratuitement des vaccins anti-Covid grâce au mécanisme COVAX destiné à acheminer ces vaccins pour les pays pauvres. Le début très symbolique d'une campagne à destination de ces pays. Le Saint-Siège continue dans le même temps de plaider pour l'accès universel à la vaccination anti-Covid. Le Pérou manque cruellement d'oxygène, une pénurie qui contraint des milliers de Péruviens à faire la queue pour approvisionner leurs proches malades. Reportage de notre correspondante à suivre. À la une de ce journal également, la grogne des Chypriotes qui, suite au scandale de corruption et en plein marasme économique, descendent dans la rue pour exprimer leur colère. Et puis nous irons en Turquie où une polémique fait rage au sujet des fouilles intégrales, des fouilles qui ont lieu dans les prisons turques.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour, le Ghana est le premier pays du monde à bénéficier gratuitement des vaccins anti-Covid grâce au mécanisme COVAX, cette plateforme mise en place l'an dernier par l'OMS pour fournir les vaccins aux pays les plus pauvres. 600 000 doses de vaccins AstraZeneca sont arrivées à Accra aujourd'hui, expédiées par l'UNICEF depuis l'Inde où ils sont fabriqués. Cette livraison marque le début d'une vaste campagne de vaccination en faveur des pays à revenus faibles et intermédiaires. Xavier Sartre.
600 000 doses de vaccins AstraZeneca fabriqués en Inde dans une usine de Bombay ont été débarquées ce matin de bonne heure à l'aéroport d'Accra. Ce sont les premières à être livrées dans le cadre de la campagne anti-Covid orchestrée par COVAX, cet organisme créé par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, l'Alliance du Vaccin et la Coalition pour les Innovations en matière de préparation aux épidémies, la CEPI. COVAX négocie et achète directement auprès des grands laboratoires. Ce système vise à fournir cette année des vaccins anti-Covid à 20% de la population de près de 200 pays et territoires participants. Mais il comporte surtout un mécanisme de financement qui permet à 92 économies à faible et moyen revenu d'avoir accès aux précieuses doses. Le Ghana est ainsi le premier à en bénéficier. À terme, ce pays d'Afrique de l'Ouest doit recevoir 2,4 millions de doses. Les personnels de santé seront les premiers à être vaccinés. Acheminés grâce à l'UNICEF, les doses de vaccins seront ensuite administrées aux personnes les plus fragiles. Officiellement, la Covid-19 n'a causé la mort que de 582 personnes au Ghana, mais les chiffres sont sous-évalués. C'est dire si l'arrivée de ces vaccins était attendue.
Xavier Sartre est l'observateur du Saint-Siège auprès des Nations Unies à Genève. Monseigneur Ivan Jurkovic a lui rappelé devant l'Organisation Mondiale du Commerce l'importance de garantir un accès universel aux vaccins, plaidant notamment pour la suppression de certaines restrictions sur la propriété intellectuelle qui entrave cet accès. Nous avons vu comment certains pays et entreprises continuent à favoriser les accords bilatéraux, faisant monter les prix et essayant de faire sauter la file d'attente, a regretté le diplomate. Plus d'informations à retrouver sur vaticannews.va. Et alors que la vaccination s'amorce ou se poursuit dans de nombreux pays, la situation épidémique inquiète toujours dans certaines régions. C'est le cas notamment au Pérou, où depuis un mois, les habitants vivent de nouveau une grave pénurie d'oxygène face à la pandémie de Covid. Les gens sont obligés de faire la queue. Ce sont même les cliniques privées de la capitale Lima qui sont à court d'oxygène. Une pénurie qui contraint donc ces milliers de Péruviens à faire la queue souvent pendant plusieurs jours pour approvisionner leurs proches. Le reportage de notre correspondante à Lima, Viloen Munoz-Boileau.
Nous sommes à Villa El Salvador, un quartier populaire de Lima. Dans cette rue poussiéreuse, des centaines de bouteilles d'oxygène se dressent à perte de vue, veillées par une foule masquée. La plupart de ces gens ont passé la nuit dehors, dans le froid, debout à côté d'une bouteille d'oxygène encore vide et plus grande qu'elle, Laura Vergara semble à bout.
Ça fait une semaine que je fais la queue et que je dors ici. Mon mari étant en insuffisance respiratoire, j'ai supplié l'hôpital pour avoir un lit en soins intensifs, mais on m'a répondu qu'il n'y avait plus d'oxygène pour les alimenter.
Avant de recourir à cette distribution gratuite, cette mère de 3 enfants s'est endettée pour acheter de l'oxygène, car la pénurie a fait exploser les prix.
J'ai déjà dépensé plus de 20 000 $ pour sauver la vie de mon mari alors que je gagne à peine 270 $ par mois. C'est pour ça que je suis là, je n'ai plus un sou.
Son désespoir et son exaspération, tous ici la partagent. Ce jour-là, le dernier de la file a le numéro 550, mais l'entreprise en charge de la distribution d'oxygène ne peut remplir que 200 bouteilles par jour et encore à moitié seulement pour qu'il y en ait pour tous. Dans la matinée, une dispute éclate dans la file d'attente. Certains dénoncent la présence de mafieux qui cherchent à se faire de l'argent en vendant leur place dans la queue malgré la présence des forces de l'ordre. Cette situation, on la retrouve aujourd'hui dans tout le pays. Selon le gouvernement péruvien, il manque environ 100 tonnes d'oxygène par jour. À Lima, Viloé Munoz-Boileau, RFI pour Radio Vatican.
La 46e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU se poursuit, pilotée depuis New York, mais chacun intervenant en vidéo depuis son pays en raison de la crise sanitaire. Parmi les informations principales, cette annonce aujourd'hui du nouveau chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, qui annonce le souhait des États-Unis de briguer de nouveau un siège au Conseil des droits de l'homme. Un conseil qui, je vous le rappelle, compte 47 pays membres nommés pour 3 ans. Une décision qui tranche avec l'administration Trump qui avait claqué la porte de cette structure. Monseigneur Richard Gallagher, lui, est intervenu ce matin à la tribune de l'ONU à Genève lors d'une session de la conférence sur le désarmement. Le chef de la diplomatie du Saint-Siège a plaidé pour davantage de coopération et de confiance, s'élevant contre les dépenses trop élevées qui alimentent une course aux armements sans fin. Le désarmement ne peut plus être considéré comme un objectif facultatif, a-t-il souligné. Il s'agit d'un impératif éthique. C'est un sentiment de frustration et de colère générale à Chypre après de nombreux scandales de corruption qui s'ajoutent à l'impact de la crise économique et sanitaire. La coupe est pleine pour de nombreux chypriotes qui manifestent massivement, des manifestations réprimées par la police. La correspondance régionale d'Alexia Kefalas.
Alors que Chypre tourne au ralenti en raison de la pandémie, les manifestations massives s'enchaînent sur l'île d'Aphrodite. Effet rare, un épisode de répression policière avec canon à eau a attisé la vive colère des chypriotes. Au cœur de la protestation, la crise économique qui ravage le pays, ainsi que le manque de soutien du gouvernement qui a conduit certains à choisir entre payer leurs factures ou se nourrir. Ainsi, une jeune musicienne de 25 ans est devenue un symbole après avoir failli perdre partiellement la vue lors du rassemblement. À cette détresse s'ajoutent d'autres problèmes de fonctionnement de l'État, avec notamment le scandale des passeports en or ou visas dorés délivrés à des milliers d'investisseurs étrangers qui favoriseraient la corruption et le blanchiment d'argent. Concrètement, un passeport chypriote est donné en échange d'un investissement de 2,5 millions d'euros sur l'île. La classe politique chypriote, pointée du doigt pour en avoir abusé, a décidé d'y mettre un terme provisoirement. Enfin, la décision de la puissante église de Chypre de détruire sans autorisation 4 bâtisses classées pour ne pas faire de l'ombre à la nouvelle cathédrale du centre historique de Nicosie, la capitale. Polémique, corruption, scandale, la coupe est pleine et le gouvernement de Nikos Anastasiadis risque cette fois de ne pas pouvoir apaiser la colère des chypriotes. À Athènes, Alexia Kefalas pour Radio Vatican.
10 ans et demi de prison pour le cerveau de l'État islamique en Allemagne. Âgé de 37 ans, cet homme d'origine irakienne était jugé depuis plus de 3 ans. Il a été condamné ce matin pour avoir radicalisé des jeunes et envoyé des combattants volontaires depuis l'Allemagne vers la Syrie ou l'Irak. Une fillette de la minorité yézidi libérée en Turquie. 2 membres présumés du groupe État islamique ont été arrêtés à Ankara lors d'une opération menée par la police et les services de renseignement. Ils ont découvert cette petite fille âgée de 7 ans que l'un des suspects avait enlevé en Irak et ramené avec lui en Turquie. La Turquie ou au Parlement, comme sur les réseaux sociaux, une polémique fait rage au sujet des fouilles intégrales dans les lieux de détention. Les autorités turques nient leur existence, mais les témoignages de victimes se multiplient. À Istanbul, un Anglower.
La polémique sur les fouilles à nu en Turquie dure depuis environ 2 mois. Mais c'est une députée du parti au pouvoir, Özlem Zengin, qui l'a relancée le 19 février avec ces mots qui ont choqué.
Quand on se plaint, c'est juste après les faits. Si vous fouillez une femme à nu, elle le dénoncera tout de suite. Une femme honorable n'attendrait pas 1 an pour porter plainte.
L'élu de l'AKP entendait démontrer la position des autorités sur les fouilles intégrales. Elles n'existeraient pas, donc les plaintes seraient mensongères. Ces fouilles à nu ne sont pas interdites, mais elles sont en principe strictement encadrées. Des députés de l'opposition dénoncent pourtant ce qu'ils qualifient de banalisation de cette pratique dans les commissariats et les prisons. Sur les réseaux sociaux, des dizaines de victimes, principalement des femmes, partagent leur expérience. Parmi elles, l'avocate Betül Alpay, qui raconte son arrivée à la prison de Moula le 2 novembre 2017.
Deux gardiennes m'ont dit de me déshabiller. J'ai tout enlevé sauf mes sous-vêtements, mais elles m'ont ordonné d'enlever aussi ma culotte. C'est la pire phrase que j'ai entendue, j'en ai pleuré. J'ai dû faire ce qu'elles ont dit, enlever ma culotte, puis m'agenouiller et me redresser 3 fois de suite.
Malgré les dénégations officielles, la Cour constitutionnelle turque a donné raison en décembre à une femme qui affirmait avoir été fouillée à nu dans un commissariat d'Istanbul. Elle avait porté plainte, mais le parquet avait refusé d'ouvrir un procès. À Istanbul, un endroit pour Radio Vatican.
Avant de refermer ce journal, sachez que le pape François a un nouveau médecin personnel. Le Saint-Père a nommé ce mercredi le professeur italien Roberto Bernabei, professeur titulaire de médecine interne et de gériatrie à l'Université catholique du Sacré-Cœur à Rome. Il succède au professeur Fabrizio Socorsi, décédé le 9 janvier dernier à l'hôpital Gemelli, où il avait été traité pour un cancer, décédé des suites de complications dues au Covid-19. Le pape qui avait assisté aux funérailles de celui-ci le 26 janvier dernier au Vatican. Et voilà, et ça s'achève ainsi, s'achève ce journal. Merci de nous être fidèles. L'information reviendra à 18h. Je vous souhaite une excellente après-midi.